sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, sois feignant. Tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, baise et collectionne les véroles. La médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ceux qu'on cru dans la société. Sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, sois feignant. Tu vivras longtemps. Moins tu en fais, plus tu l'espères, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, sois feignant. Tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain, tu en auras moins de chagrin que si tu n'as pas à manger. Et si t'as la main sur le cœur, n'hésite pas à la couper, tu entendras moins les moqueurs. Si c'est toi qui les as roulés, sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, sois feignant. Tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un couillon qui t'envoie tout droit en prison, dis-toi qu'il est plus mal logé. Car pour te payer ta pitance, tandis que tu feras pénitence, lui qui est si fier de t'enfermer, faudra encore qu'il aille bosser. Sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, sois feignant. Tu vivras longtemps. Voilà, c'était mon héritage. Comme tu vois, j'ai fait mes bagages. Je te laisse avec ta maman. Tu perds rien, j'ai pas le gros lot. Et tant pis pour toi si je triche, tu seras peut-être un enfant de salaud. Mais tu seras pas un gosse de riche. Sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, mon enfant. L'avenir t'attend.
C'est qui les petits fainéants ? C'est nous ! Bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 14 septembre. Une équipe de fainéants avec Laurent au micro noir.
Bonjour.
Bonsoir à tous et à toutes. Fainéant, hein, c'est celui qui fait zéro, nada, qui fait le néant. Un petit peu différent du feignant, hein, puisqu'a priori, le feignant, ça vient quand même du verbe feindre, c'est-à-dire celui qui prétend, qui fait semblant de faire quelque chose. Bon, l'issue est la même, hein, dans le travail, au global, on ne fait rien. Alors, peut-être que tu n'étais pas dans la rue ce mardi avec nous, peut-être que tu as fait la grève du zèle quand même à ton travail, peut-être que tu as glandé, comme diraient certains, peut-être que tu n'as rien branlé, comme diraient d'autres, peut-être que tu es un flemmard, un paresseux, une flemmarde, une paresseuse, une tire au flanc, hein. Oui, peut-être que tu es partisan ou partisane du moindre effort, que tu t'es tourné les pouces, que t'as lézardé, rouillé, bullé, baillé, au fond que tu as été improductif ou improductive. Et ça, c'est bien, parce que la farniente au travail, quand même, c'est chouette, on prend plaisir à cette oisiveté. Hein, tellement de fainéants, mardi, sont quand même descendus dans la rue, il faut le dire. Nous étions quand même quelques-uns et quelques-unes des fainéants qui ont décidé de ne pas bouger en attendant que les flics relâchent la centaine de manifestantes et de manifestants nassés à quelques mètres du départ. Oui, parce que peut-être que petit fainéant et petite fainéante, tu n'as pas tout suivi. Mais mardi, tout cela a été bien long à démarrer, puisque la police a décidé de taper directement alors que la CGT n'avait pas fait trois pas. Et voilà donc que les matraques et les gaz ont été sortis et que pif, paf, pouf, une centaine d'entre nous, on va pas aller non plus si loin que ça, s'est fait coincer dans une petite rue juste là après le départ. Incroyable. Et ben non, les fainéants et les fainéantes n'ont pas bougé. Nous avons attendu que la libération se fasse. Alors si la stratégie était de nous diviser, de nous faire peur, c'est plutôt raté. Taper d'entrée de jeu les cégétistes était peut-être une mauvaise manœuvre pour nous disperser. Ça aussi, c'est raté. Ça ne les a pas fait partir, ces vilains cégétistes. Alors quoi qu'on pense de la CGT, de ces syndicats de flics, de ces chefs, de ces salariés, les cégétistes sont restés avec les autres qui étaient présents. Croire que nos différences entre celles qu'il peut y avoir entre des syndicalistes de la CGT et de la CNT, par exemple, des différences de vue entre les partis politiques et les groupes autonomes, croire que ces différences allaient prendre le dessus, c'est une erreur de débutant, moi c'est ce que je pense, car oui, parfois on se déteste, on s'engueule, on se repousse, parfois même on s'est tapé dessus, il faut aussi le dire. Mais il faut croire que ce rendez-vous de rentrée à Lyon, pour ce rendez-vous, notre colère, elle était bien là et bien commune. Et patiemment, on a repris la rue, oui, patiemment, et on reviendra, jeudi prochain, paraît-il, le 21 septembre. Et on s'organisera encore une fois, car notre fainéantise, on la réserve plutôt pour le patronat, parce qu'on va continuer à descendre dans la rue. Et alors, nous, bande de fainéants, ou de...
On a bossé tout l'après-midi pour préparer l'émission.
Exactement. Ben oui, parce qu'on choisit notre fainéantise. C'est bien ça, quand même, comme je le dis. Alors, nous allons démarrer avec cette information que nous avons repérée tous les deux, dont Laurent va commencer à nous parler. Il s'agit des nouveaux tarifs des consultations pour aller chez le médecin. Oui, c'est assez étonnant, mais tout ça va franchement augmenter pour certaines choses. Nous allons parler des profiteurs avec messieurs Campion et Vauquier. Nous parlerons du CETA, des JO 2024, et puis de l'état d'urgence, et puis ensuite un petit peu d'environnement, tout ça. Mais d'abord, nous commençons donc avec les nouveaux tarifs.
Ah oui, alors des choses qui ont été négociées par l'ancien gouvernement de Monsieur Hollande. Alors ça s'était pas très bien passé, c'était en août de l'année dernière. Les médecins avaient arraché, on le savait, la consultation à 25 €, au lieu de 23. Donc en gros, un quart d'heure en moyenne, 20 minutes de consultation, 25 €. C'est un bon salaire quand même. Et il y avait d'autres choses derrière, on l'a pas su, c'était gardé relativement secret. Et là, c'est paru au journal officiel. Les consultations vont augmenter beaucoup plus que ce 23 à 25 €, puisqu'ils ont créé plusieurs types de consultations. La consultation dite complexe, donc ça sera facturé 46 €, vous imaginez, 19 € de plus que la consultation non complexe. Alors ça va concerner certains types de pathologie, les enfants à risque d'obésité par exemple, je sais pas en quoi c'est beaucoup plus complexe qu'autre chose, mais bon voilà, les soins aux nouveau-nés avec des cas spécifiques de la naissance à 28 jours après la naissance, la première consultation pour obtenir de la contraception, c'est très complexe. Alors c'est bizarre parce que je crois que des non-médecins, des infirmières ou des gens qui connaissent le milieu médical sont capables de faire ça, de la prévention sur la contraception et de l'explication. Non, les médecins pour eux c'est complexe a priori, c'est peut-être pour ça qu'on a des soucis en France d'ailleurs là-dessus. La prévention des maladies sexuellement transmissibles, ça rentre aussi dans cette catégorie, alors que bizarrement ces consultations sur les maladies sexuellement transmissibles devraient plutôt être gratuites. Pour essayer d'endiguer leur développement. On sait qu'il y a des multirésistances aujourd'hui sur plein de ces infections sexuellement transmissibles et sur quelques maladies. Eh ben non, on les met dans les catégories chères. Alors notamment la contraception, ça concerne les filles de 15 à 18 ans. Voilà, bon, il y a pas mal de choses comme ça, c'est assez bizarre. Et ça peut encore augmenter jusqu'à 62 € pour les troubles du comportement alimentaire, la tuberculose, l'asthme. L'asthme, c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui ont de l'asthme. Les médecins vont pouvoir s'acheter une nouvelle Porsche. Je pense que c'est fait pour ça. Alors, une nouvelle catégorie, alors ça concerne les généralistes, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue, c'est la consultation très complexe. Et ça concerne plutôt les médecins spécialistes. Alors, ils sont spécialistes, donc normalement, ils font un métier qui est un peu plus pointu que la médecine générale. Mais non, on leur met plusieurs couches et on dit qu'il y a des niveaux de complexité importantes. Alors, quand ça va concerner les greffes, quand ils vont devoir annoncer que quelqu'un a une grosse maladie comme un cancer. Enfin voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'est ce que je rajouterais, c'est qu'en fait l'excuse, c'est qu'en fait ce sont des pathologies qui sont taxées puisque ce sont des enjeux de santé publique et donc c'est là où la complexité arrive, c'est qu'en fait c'est important. Donc le terme est un petit peu mal choisi de leur part. Oui, moi je trouve que sur la première prescription pour la contraception, c'est quand même assez incroyable.
Ça devrait être gratuit et c'est payant.
Moi ça m'a fait tomber de ma chaise quand j'ai vu ça. Sur l'obésité, c'est pareil. Il paraît que c'est il faut lutter en France, que c'est important, sur l'asthme, sur aussi le VIH, sur les premières consultations. Alors il y a plein d'excuses puisqu'il paraît que en fait ça change rien sur les remboursements, toujours à 70%.
Bah oui, mais comme ça augmente, il reste 30% pour le patient, 30% voilà. Sur quelques euros avant, ben là 30% sur des dizaines d'euros. En gros, il va leur rester 13 ou 15 euros à leur charge, à notre charge. Ce qui fait que bon, ben, ça va avoir une énorme conséquence, c'est que les pauvres consultent de moins en moins les médecins, et ben là ça va encore exclure des pauvres de la médecine, et ils vont encore moins bien se soigner. C'est fait exprès, bien évidemment, hein. L'objectif, c'est de virer les pauvres qui vont trop voir le médecin, les pauvres, hein, mais pourtant moins que les riches. Mais non, comme ça on vire des pauvres parce qu'il y a trop de queues, il y a trop d'attentes chez les médecins. C'est une solution, hein, c'est plutôt que de faire des nouveaux médecins, on enlève des patients. Et autant tant qu'à faire, autant choisir les pauvres. Ça va être la première conséquence. Après, la deuxième, ça sera sur la santé en général. Puisque quand on soigne moins une partie de la population, les maladies se répandent plus vite aussi. Et finalement, tout le monde en paiera les conséquences. Mais ça, ils en ont rien à faire. Puis dernière conséquence, l'objectif primaire et premier de tout ça, bah, c'est que les médecins soient encore plus riches. Alors, ils sont déjà partis de la classe moyenne haute. Bah, là, ils pourront donc s'acheter une deuxième Porsche, une deuxième Ferrari.
Ouais, alors je peux même enlever la classe moyenne. Il y en a qui sont particulièrement riches dans notre pays, les praticiens. C'est surtout que c'est pas tant les très très pauvres que ça va toucher, il faut le rappeler, ou vous pouvez avoir la CMU. Mais c'est quand vous êtes par exemple précaire, ouais, et que vous n'avez pas forcément un travail. On rappellera que aujourd'hui vous avez une complémentaire santé qui est prise en charge par votre patron. Simplement, bah, quand vous enquillez des petits contrats courts et les machins, bah, finalement vous n'avez plus tout ça. Surtout si vous êtes célibataire, vous pouvez pas profiter de celle de votre conjoint, de votre conjointe, de complémentaire santé. Et donc en fait l'idée, c'est que des gouvernements, hein, successifs, parce que là ça vient de celui de monsieur Hollande, mais monsieur Macron est dans la même lignée, c'est que c'est les complémentaires santé qui finalement vont prendre en charge, donc tout passe bien. On rappellera que les complémentaires santé, on les paye,
oui,
notre
là,
patron
coup,
les paye, et donc
ils vont les augmenter puisqu'ils auront des frais en plus.
Donc en fait voilà, exactement. Donc au final c'est quand même enrichir les complémentaires santé qui, par des tas de systèmes, augmentent les prélèvements, même si effectivement, le patronat peut en prendre une partie. C'est quand même pas terrible.
Ouais, et puis une grande partie de ces complémentaires santé sont des organismes privés.
Voilà, donc enfin, c'est ça.
À but lucratif.
Donc, et puis surtout, eh ben, les précaires, eux, n'ont accès à rien et vont se retrouver effectivement, comme tu le disais, à pas pouvoir se soigner. On rappellera qu'il y en a qui peuvent profiter, j'y mets des guillemets, de la CMU, mais tout ça ne fait pas tout. Et donc c'est un système de profiteurs en fait, puisqu'on nous dit que nous, on doit faire des économies sur la santé et en même temps, on permet aujourd'hui à des praticiens de s'enrichir au nom de la santé publique.
Oui, ben alors c'est bizarre, suivant la complexité de l'action qu'on fait, on n'est pas payé pareil. Vous imaginez un prof qui va enseigner en petite classe, il est payer le même salaire que s'il enseigne à la fac avec le même diplôme. Hein, si il a des diplômes différents, je veux bien. Et pourtant, c'est beaucoup plus complexe et tout. Là, on met pas de complexité. Et puis, c'est pareil pour plein de métiers. Donc, c'est quand même assez incroyable de rajouter comme ça, c'est de déglobaliser l'ensemble d'un métier. Et oui, un médecin, ça doit parler, être capable de parler à quelqu'un qui a une maladie grave. Ça doit être capable de parler de contraception. Ça fait partie de son métier et pas d'un truc en plus qui demanderait je sais pas, des connaissances incroyables.
Ben oui, mais il paraît que les Alzheimer, ça prend trop de temps et que donc il faut de l'argent pour pouvoir s'en occuper. C'est un peu ce que j'ai pu lire. On va parler d'autres profiteurs, si tu veux bien. On peut commencer peut-être par du local, avec monsieur Vauquier, Laurent de son prénom. Nuance de gris, on peut l'appeler maintenant.
Mmh. Hein, parce qu'on sait qu'il se teint les cheveux pour paraître plus vieux, donc plus sérieux et plus crédible. C'est juste un acteur, en fait, un comédien.
Ah oui, mais alors Vauquier, qui vient de droite, hein, puisqu'il l'a bien redit, lui c'est la vraie droite, donc un assisté, puisque ça fait 13 ans qu'il est en détachement de son poste de haut fonctionnaire au Conseil d'État, ça lui permet de cumuler des points de retraite alors qu'il n'y met pas les pieds, tout simplement. Alors il y en a quand même qui finissent par démissionner, hein, ou vont se mettre en disponibilité au moins, puis par démissionner, ce qu'avaient fait Monsieur Hollande et Monsieur Macron. Monsieur Hollande parce que le canard enchaîné lui était tombé dessus, Monsieur Macron parce que Monsieur Hollande s'était fait tomber dessus. Monsieur Wauquiez, lui, a décidé de tout garder tout en ne faisant rien. C'est quand même pas mal, moi, je
alors,
trouve.
Alors, il a pas de salaire, quand même, mais il a ses points retraite.
Alors, il paraît que c'est légal parce qu'en même temps, il paye des cotisations, tout ça, qu'il y a droit, hein, c'est légal. Ouais, bah, c'est peut-être pas très moral pour quelqu'un qui n'arrête pas de critiquer les chômeurs, les gens qui ont des allocations familiales. Enfin, on est tous et toutes désassistés, je vous rappelle, aux yeux de Monsieur Wauquiez, hein, l'assistana est le cancer de la société française, avait-il sorti. Et lui, tranquillement, fait ses petits points retraite. Hein. On rappelle qu'il est quarantenaire, il n'est pas très vieux. Malheureusement pour nous, on va devoir le supporter pendant de longues années. Donc, un profiteur, hein, bien de chez nous, de droite. Et surtout, ce qui a fait râler là tout le monde et qui donc était sorti par la presse lyonnaise, c'est que son détachement a été renouvelé. Eh oui, comme ça, il va pouvoir continuer. Alors, il n'est pas prêt de lâcher, parce qu'il y a des politiques qui finissent par lâcher quand la presse met le doigt dessus et qu'en plus ça fait du bruit au niveau national. Lui, il a dit que non, il avait le droit, que c'était légal et donc il lâcherait rien. Profiteur, tout simplement. Et puis je voudrais revenir sur le cas de Marcel Campion, vous savez, ce patron forain. Qui défraie souvent la presse. Alors ce mardi, les forains ont mené une opération escargot au sud de Lyon, sur la 47, la 7 et la RN346. Il y a eu un mouvement similaire à Paris et puis à Marseille, à Toulouse par exemple. On rappelle, hein, Marcel Campion, propriétaire de plusieurs attractions en Ile-de-France, dont la fameuse grande roue de la place de la Concorde, qui a été démontée, certes. Et c'est lui qui a lancé cet appel à la mobilisation. Alors en réalité, il faut bien dire que le but, c'était pas d'être à côté de nous les fainéants, mais c'était de lutter contre une ordonnance du 19 avril dernier qui impose aux mairies d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation. Et tout ça, ça vise directement Monsieur Campion, puisque après avoir été soutenu on ne sait bien comment par les politiques successifs en Ile-de-France et à Paris, s'est fait lâcher, il faut bien le dire, hein, Madame Hidalgo lui a tourné le dos, hein, bon, il a des affaires un peu
avec la justice.
Avec la justice. Donc d'un seul coup, Monsieur Campion décide de descendre dans la rue à nos côtés. Alors c'est quand même un peu curieux, cette idée, il faut bien le dire.
Surtout que c'est pas un gauchiste, c'est un patron.
C'est un patron. Et puis
qui respecte pas le droit du travail. Enfin voilà, il y a eu plein d'affaires. Voilà.
On n'était pas surpris non plus de voir une photo de Monsieur Philippot dans un des camions des forains
oui,
ce mardi.
Effectivement, il y a une très forte présence des idées du Front National chez les forains, donc chez Campion aussi, bien évidemment.
Et alors, bon, moi, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est de voir que certains sites de gauche alternatifs se réjouissaient presque de l'arrivée des forains dans les manifs de mardi, comme un complément à la lutte des travailleurs et des travailleuses. J'étais un peu surprise, il faut le dire aussi, de lire ça, hein, sur le site de lundi matin, avec un beau texte donc de Monsieur Campion. C'est marrant, ce texte, parce qu'en fait, il ne parle pratiquement que de lui.
C'est normal.
Alors, c'est un texte qui commence par « j'ai », déjà, voilà. Alors, le « je », il y en a 22, alors « je » ou sa contraction « j'ai »,« j'étais »,« j'avais », 22. J'en ai peut-être oublié, mais il y en a au moins 22 sur un texte qui est quand même pas si long, il faut le dire. Et puis, là, on a droit à des grandes envolées avec des « no passaran »,
ouais, c'est
dans
énorme.
Le texte.
Et c'est un excellent comédien aussi.
Ah, mais du lyrisme dans le texte, hein, quand même, parce que alors, c'est « moi, je contre les grands méchants, moi, je suis riche, mais c'est pas ma faute, on m'accuse à tort ». Hein, il s'offusque, le monsieur, lui, n'est qu'un petit forain discriminé.
Forain discriminé, lui qui organisait les marchés de Noël sans passer d'appel d'offres. Puisque
c'est exactement ça qui est visé là, par la justice. Par
le marché de Noël qui est un truc énorme à Paris sur les Champs-Élysées.
Très touristique.
Ouais, donc c'est, voilà, il ne veut pas de concurrence. Donc c'est un patron traditionnel, il n'aime pas la concurrence.
À chaque fois, je me suis battu, non pas pour devenir riche, mais pour rester libre. Si j'ai lutté, c'est parce que j'étais libre. Si je suis libre, c'est parce que j'ai lutté. Ouais, vous pouvez rigoler, vous avez le droit. Alors après, il nous parle de fatalité. Moi, j'ai pas bien compris ce que venait faire la fatalité dans tout ça. Donc, il explique qu'il je veux me battre jusqu'à mon dernier souffle. Bon, t'as bientôt 80 balais. On peut espérer que c'est pas bien loin. Non pas pour rester riche. Je le serai toujours assez avec une caravane.
Mais de toute façon,
bien sûr, mon ami. Donc du baratin hein, de la part de Monsieur Compion dans ce long texte quand même de jeu. Parce que long texte, pas tant au nombre de mots et de phrases, mais de blabla et de baratin. Je retourne dans la rue, j'apporte ma voix et mes poings dans la guerre sociale qui se prépare, je cite toujours. Donc on n'en peut plus. Et il nous explique, nous le ferons en première ligne de toutes les manifestations colère sociale avec les syndicats et les insoumis, les bonnets rouges et les black blocs, les agriculteurs faillis et les anarchistes. C'est merde, beau. En fait, il manifeste avec tout le monde. Ouais, c'est connu, il va taper large quand même, il sait pas bien qui va vouloir de lui. Bon, Monsieur Campion, il a été lâché hein, par ses anciens amis, par ses anciens amis politiques. Il n'était peut-être pas vraiment ses amis, mais on ne sait encore pas bien ce que la justice va faire ressortir des valises.
D'argent. Oui, on sait qu'il n'est pas réglo avec les cotisations sociales. Alors c'est bizarre que les sites soi-disant alternaux de gauche, là, qui ne le sont finalement pas, voilà, sont contents qu'ils viennent parce qu'effectivement, il n'a pas bien payé ses cotisations sociales. Alors ce qu'on appelle le salaire indirect, ça finance la Sécu, ça finance plein de choses. Bon, là, ça, non, les sites de gauche, ça les gêne pas. Qu'il ait soit pote et ou que M. Philippot vienne avec eux, ça les gêne pas non plus. C'est quand même bizarroïde ce qui se passe. Campion, voilà, c'est un patron, point.
Ah ouais, c'est pour ça qu'à vouloir croire, comme l'écrit lundi matin, je cite, que cela annonce une diversification toujours plus grande des cortèges de têtes qui s'apprêtent à défier notre nouveau président, hein, que la venue des entrepreneurs de la fête foraine est profitable à l'île des travailleurs et des travailleuses. C'est être populiste, hein, parler d'insurrection sur un site et puis ensuite pactiser avec des patrons, qu'ils soient forains ou pas, des patrons qui se fichent du code du travail, de nos droits, c'est quand même une vilaine blague. Moi, ça me fait pas trop marrer. Hein. Mais a priori, le populisme de gauche a quand même un beau jour devant lui. Il faut quand même bien le dire. Voilà, moi, ça m'a un petit peu énervé, je dois vous le dire.
Ouais.
Même si son texte m'a fait un peu rire aussi, quand même.
Allez, on va se poser une question. Est-ce que Macron peut être un traître et un menteur ?
Oui !
Ah non, tu réponds. Non, non, non.
Ah merde, j'ai tout cassé. Sujet suivant, s'il te plaît.
C'était la chute. Alors, vous vous rappelez de la négociation du CETA avec le Canada, le fameux traité qui libéralise les échanges commerciaux entre l'Union européenne et ce bout du nord des États-Unis, de l'Amérique, plutôt. Il y a pas mal de critiques. Et Emmanuel Macron, le président de la République, enfin il l'avait dit avant d'ailleurs, il a demandé, une fois qu'il était président de la République, à une commission d'experts d'évaluer l'impact du CETA sur l'environnement, le climat et la santé. Donc il a demandé ça, et trois mois après, il a reçu son rapport, qui a été remis en fait au Premier ministre, qui confirme en grande partie les risques qui avaient été dit un peu par les militants, les militantes notamment écolos, sur ce CETA. Alors quelques extraits du rapport, sur l'environnement et la santé par exemple, dans le rapport on lit page 24, l'accord CETA ne donne pas la priorité aux préoccupations liées à la protection de l'environnement et de la santé. Bon, je crois que c'est clair, ça n'intervient pas dans le rapport, c'est foutu, ça va, voilà. Sur le principe de précaution et les OGM, le rapport dit, c'est page 22 et 47, vous les vérifiez. On ne peut exclure que les imprécisions du CETA conduisent à l'arrivée sur le marché européen de produits autorisés en vertu d'une réglementation ne prenant pas en compte le principe de précaution. Bon, en gros, il peut arriver n'importe quoi sur le marché. La deuxième partie, est-ce la porte ouverte donc à l'arrivée des OGM, notamment sur le saumon transgénique hein, qui viendrait du Canada. Le rapport précise, les biotechnologies constituent également un point qui nécessite de la vigilance. De toute façon, ça ne sera pas contrôlé. Bon, voilà. Sur les normes au rabais. Le rapport dit aussi qu'on peut craindre que les mécanismes de coopération pour harmoniser des limites maximales de résidus de pesticides, notamment autorisés dans les produits agricoles et alimentaires, entraînent une harmonisation vers le bas. Page 47 du rapport. Bon bref, effectivement, l'impact du CETA sur l'environnement, le climat et la santé est négatif. Donc on se dit, c'est bon, le petit président Macron, il a ça, et il va tout faire, parce que ce qu'il avait promis, hein, c'était en mai 2017 pendant la campagne, il avait promis qu'après avoir eu le rapport, et si il en tirerait les conséquences, et qu'il porterait, je cite M. Macron, vers nos partenaires européens, pour alors faire modifier ce texte pour que la vérité scientifique ainsi établie, et qui nous sera connue, puisse être défendue. On se dit, cool, il va le faire. Et là, aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il voterait l'application du CETA au 21 septembre lors de la réunion qui aura lieu pour valider le CETA au niveau de l'Europe. Bref, il refuse de renégocier l'accord. Il sacrifie l'agriculture, la protection de l'environnement, la santé. devant les intérêts économiques, ce qui est normal, c'est un libéral. Sauf que il faut qu'il arrête de mentir et de faire semblant, qu'il le dise jusqu'au bout, ce qui est primordial, c'est l'économie, le reste, il en a rien à faire. Donc il a fait un énorme mensonge, effectivement, on peut constater que sa promesse était une promesse en l'air, était un mensonge. C'est pas le seul de monsieur Macron, il y en aura d'autres. Il y a des choses qu'il avait avancé, sur lequel on était déjà contre, mais celle-là, il a fait exprès de mentir parce que voilà, ça devait embêter ses copains patrons.
Alors, à l'acte 2, scène 2, dans le site de Pierre Corneille, le comte déclare « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».
Ah, je me rappelle, ouais.
Hein, oui, on n'est pas que des...
On a été à l'école,
on n'est pas que des fainéants dans cette émission, on était ici un petit peu à l'école. Et puis on lit aussi, quand même, un petit peu. Hein.
Tu lis encore le site, toi ?
Eh ben, tu te souviens pas de ça, de Pierre Corneille?
Si, mais je le relis pas, que je te
veux. Bah, écoute. Voilà. C'est en fait les larmes de Madame Hildingo qui m'ont amené cette jolie petite phrase.
Elle aussi, menteuse et traître.
Ouais.
Parce qu'elle a fait une belle volte-face.
Écoute, elle a beaucoup, elle a pleuré, elle était très émue, puisqu'évidemment, on s'y attendait, mais pas du tout. Paris est donc capitale des JO 2024.
Ouais, alors,
ville choisie, ville haute, comme on dit.
Comme quoi, elle aussi, elle est très bonne comédienne, hein, du coup.
Ouais, c'est super. À l'unanimité, rends-toi compte, ça aussi.
Il n'y avait personne en face.
Pas. Eh ben ouais, mais c'est-à-dire que c'est une mascarade, hein. On nous donne des jeux parce que plus personne n'en veut. Rappelons que donc Los Angeles a obtenu 2028.
Sans concurrent non plus.
Sans concurrent. Maintenant, ça va pas bien pour accueillir les jeux. Plus personne. Dans d'autres villes, il y a eu des référendums, ce qui fait que les autres villes ont laissé tomber, ou alors, en tout cas, il y a eu suffisamment d'affaires pour que ça laisse tomber. Nous, pas à Paris, hein. Donc, il y a un petit groupe qui pense qu'il a absolument raison. Alors, on va nous embêter hein, quand même pendant 7 ans, il faut le savoir.
Enfin, à Lyon, ça devrait être peinard.
Alors, je vais y revenir, mais non.
Merde.
Et non. Je voudrais pas te casser la joie, mais non. Alors, en plus, on nous emmerde parce que c'est les 100 ans, hein, parce que la dernière fois, c'était en 1924. Donc, c'est beau. Ça aussi, hein, qu'est-ce qu'on nous embête avec ça? Alors, on nous parle de valeur du sport, valeur des JO. Il faut être heureux pour la France. Moi, la valeur du sport, je sais pas ce que c'est.
En tout cas, là, le sport d'après de Coubertin, c'est la compétition qui est importante.
Ouais, et donc là, c'est le bonheur pour une poignée de sportifs et leurs sponsors. Rappelons-le, donc c'est la compétition. Alors, on trouve des articles absolument magnifiques hein, dans la presse, par exemple sur leparisien.fr. On trouve un papier de Nicolas Maviel hein, qui date du 13 septembre. La jeunesse parisienne impatiente d'accueillir les Jeux Olympiques pour témoigner de cette belle jeunesse. On nous cite 4 personnes.
Donc lui, il est allé interroger tous les jeunes de Paris.
C'est ça.
Il est fort hein, comme journaliste. Bon. Hein, moi, je dis bravo.
On a 4 exemples. On ne sait même pas d'où il les sort. Hein, ces 4 exemples ou 5, j'en sais rien, mais je ne me souviens plus. Je ne l'ai plus sous les yeux le papier. Mais enfin, voilà. Et puis, on a même l'humanité .fr qui nous fait les Jeux Olympiques et Paralympiques, une chance à saisir de Madame Buffet. Eh ben oui, en train
elle a été ministre.
Marie-Georges, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Voilà.
Et donc c'est pour ça qu'elle nous revient dessus. Mais voilà, de la part de l'humanité, je m'attendais à un peu autre chose que de quand même
du soutien à la compétition au libéralisme, au capitalisme.
Voilà. Ouais. Alors bon, pourtant on a eu des sondages qui se contredisent hein, depuis quelques mois. Oui, non, on n'en veut pas, peut-être un peu, pas du tout. En fait, on ne sait pas bien ce que les Français et les Parisiens, Parisiennes en pensent. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va nous coûter des milliards, dont une partie à notre pomme hein, quand même. Il faut jamais l'oublier. Alors, vous vous dites, comme Laurent, j'habite loin de Paris, je m'en fiche. Erreur. Puisque, quelques minutes seulement après l'annonce, le maire de Lyon, monsieur Kepenekian, Georges, de son petit nom, a fait part de son enthousiasme. Pourquoi? Parce que, vous savez le machin qui s'est appelé Stade Lumière, par Coel, qui s'appelle Groupama Stadium maintenant, va accueillir des compétitions.
Eh oui, ça va descendre même plus bas, non? C'est pas ça?
Jusqu'à Marseille. Bah oui, parce que je vous rappelle que pour les compétitions nautiques, il n'y a pas la mer à Paris. Hein. Donc ils sont un peu emmerdés. Ils ont dû aller quand même loin à Marseille.
Je suis déçu. Je pensais qu'ils nageraient dans la Seine.
Ouais. Eh ouais, mais non, les JO, tu sais, maintenant, c'est pas si simple comme ça que ça. Donc on va bien être emmerdés, nous aussi.
Et puis attends, mais pourquoi ils descendent à Marseille? Ils ont la mer en haut.
Ah ouais, mais non.
Elle est quand mieux, celle du bas. Plus près.
Mais oui, mais celle du bas, elle est mieux.
Elle est plus chaude, en tout cas.
Et puis bon, je sais pas, il y a peut-être les équipements. Enfin, en tout cas, monsieur Kuchera, qui est notre adjoint au sport de Lyon, lui espère des retombées pour la ville de Lyon. Il explique que c'est un enjeu important. Il espère, je cite, « faire de Lyon une plateforme arrière de préparation pour toutes les équipes nationales et internationales et leur offrir un package entraînement, hébergement, restauration, tout ça avec des tirets au milieu, entre entraînement, hébergement et restauration. Tout ce qu'il faut pour que les équipes viennent. » Vous voyez, donc à Lyon, on va risque pendant en plus 7 ans, hein, non j'exagère, mais après Tokyo 2020, vous voyez, de se taper en fait des équipes qui vont peut-être venir s'entraîner par chez nous, quel bonheur, imagine.
Il n'y a pas d'installation à construire et de trucs qui coûte très cher à faire à Lyon. C'est déjà ça de gagner.
Alors, écoute, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai découvert en fait que tu pouvais visiter sinon le Groupama Stadium, tu savais.
Ouais,
à partir de 9 euros, tu peux faire le mini tour pour de 45 minutes. Sinon, il y a le VIP tour pour 39 euros. Tu peux visiter les salons VIP, la salle de presse, les vestiaires des joueurs, le tunnel de sortie des joueurs, oh, aller sur la pelouse, un truc de fou. Bah oui, hein, c'est bien hein, maintenant qu'il y a du naming, comme on dit, hein, quand même. Ça a été signé hein, au mois de juillet, hein, ce naming, pour 3 ans renouvelables.
C'est pas pire que la Ligue, la première division française, là, ils ont donné un nom, c'est la première division Conforama, je crois.
Oui, c'est non, mais on touche au fin fond du sport, là, quand même, le petit business. Alors, je vous rassure, il y a quand même des gens qui se battent contre ces JO 2024 à Paris. Il y a un collectif non aux JO 2024 à Paris qui s'appelle, qui réunit tout plein de gens et tout plein de structures, collectifs, associations. Mercredi, ils sont sortis sous la flotte avec leurs parapluies, ils étaient une cinquantaine pour dire nous, on n'en veut toujours pas, on est toujours remontés et on ne baissera pas les bras. Il faut savoir qu'il va y avoir à côté de l'accord Hôtel Arena, hein, l'ancien Bercy, on continue avec les naming à la con, un deuxième projet d'Arena 2 de 8000 places, une nouvelle ancienne sportive, sauf que les habitants et les habitantes ne sont pas tout à fait d'accord. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un espace en plein air qui existe. Par exemple, il y a un truc pour faire du skate. Ben, il n'y a plus de truc pour faire du skate.
Il y avait un espoir que ça reste comme ça, effectivement.
Ben, l'espoir, il est mort, je te le dis.
Et surtout qu'au départ, dans la candidature, il ne devait pas y avoir d'infrastructure construite. Hein. Ça a été mis en loose-dé un peu par derrière, comme ça, discrètement.
Oui, mais parce qu'en fait, on nous explique que ce n'est pas que pour ça, tu comprends. C'est comme tout le village pour mettre les sportifs et les sportives. Ça va servir à autre chose. Et puis, on oublie toujours de nous parler des problèmes de rentabilité, hein, de toutes ces sous qu'on a, et puis de ces équipements qui ne servent parfois à rien. Rappelons-nous de Grenoble, hein, c'est pas si loin de chez nous quand même. Comment des tubes à ski ne servent plus à rien, et puis ils restent là.
Bon, il y a plus de chances que les infrastructures parisiennes servent. Mais...
Ouais, alors je te rappelle qu'il y a d'autres villes où ça s'est pas passé comme ça. Certaines infrastructures ont été tellement mal construites. À cause de la corruption, moi aussi, entre autres, que en fait, personne n'a pu aller habiter dedans et on n'en a jamais rien fait. Toujours est-il que ça donne des idées, ça a donné des idées à monsieur Brian Chesky, qui est le directeur général d'Airbnb, qui a fait un petit courrier à monsieur Macron, précisément une lettre ouverte, monsieur le président. Et donc, Brian Chesky invite monsieur Macron à arrêter de l'emmerder. Oui, globalement, c'est ça qu'il explique dans son petit courrier, que en fait, grâce à Airbnb, on va pouvoir loger des touristes pratiquement et sans être obligé de construire de nouvelles structures hôtelières qui pourraient manquer à Paris, et qu'en plus de ça, comme il y en a, c'est sur Saint-Denis, et que là-bas il n'y a pas d'hôtel, et ben les gens ils vont pouvoir aller au plus près de l'habitant et du vrai.
Ah oui,
de
c'est
Saint-Denis.
Génial. Ah oui, il a oublié de préciser que tous ces Airbnb qui fonctionnent presque 100% de l'année, c'est des logements dans lesquels les habitants de Paris peuvent plus habiter.
Ouais, alors c'est après, c'est notre faute à nous, encore une fois. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'habitants et habitantes, quand on loue, sous-loue à Airbnb nos logements ou une partie de nos logements? Parce qu'accueillir quelqu'un dans sa chambre d'amis, c'est une chose. Partir de chez soi un week-end entier pour laisser son appartement à des touristes, c'en est une autre.
Et puis après, on a plein d'appartes qui sont que...
qui ne servent plus qu'à ça.
C'est ça la plus grosse problématique.
Hein, en Espagne, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gros mouvements à Barcelone, à Madrid, Barcelone beaucoup cet été, par exemple. Mais il explique que voilà, grâce à Airbnb, en fait, les JO 2024 à Paris vont être sauvés globalement, et qu'il faut absolument compter avec cette hospitalité française et la faire découvrir au monde entier. Grâce à Airbnb, le profit ne se perd nulle part grâce aux JO. Moi, je vous le dis. Alors, parler d'état d'urgence un petit peu, tiens.
Ouais, mais alors ça va être très rapide, puisque les députés ont commencé l'examen en commission du premier texte sécuritaire d'Emmanuel Macron. Bah oui, dès qu'il est là, dès qu'un nouveau arrive, il fait un texte sécuritaire, après il en fera un par an, comme d'habitude. Et donc ça a commencé sous Jospin, et depuis on enquille les textes sécuritaires. Mais du coup, le ministère de l'Intérieur a fourni les derniers chiffres de bilan de l'état d'urgence, de la dernière partie de l'état d'urgence. Donc voilà, les sénateurs ont déjà examiné le premier texte d'Emmanuel Macron, qui est porté bien sûr par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. L'idée, c'est de transcrire toutes ces mesures liberticides là, qu'on retrouvait dans la loi de l'état d'urgence de 55, hein, qui avait été mise dans cette loi exceptionnelle d'état d'urgence, de le faire passer discrètement dans la loi normale, transformer ces mesures liberticides dites exceptionnelles en mesures normales. Voilà, pour que ça soit... autorisé tout le temps. Donc la commission des lois de l'Assemblée nationale a déjà commencé à regarder. et ils ont examiné les derniers chiffres de cette sixième phase de l'état d'urgence qui s'arrête bientôt, puisque je crois que c'est en novembre que prend fin l'état d'urgence. Donc, les bilans, je vous donne des chiffres. Alors depuis le 16 juillet de l'année dernière jusqu'au 8 septembre 2017, donc 38 assignations à résidence, c'est sur toute la France, hein, donc 68 millions d'habitants. Donc 38 assignations à résidence, 29 perquisitions administratives dont des perquisitions informatiques, donc on se déplace même pas, 37 interdictions de séjour ou d'accès au territoire, 2 remises d'armes, donc ils ont trouvé 2 fois des armes, ont été ordonnées. 5 actes relatifs à la fermeture de sites ou de lieux de réunion, donc ils ont bloqué 5 réunions. Donc voilà, ça c'est les mesures individuelles. Les mesures collectives, ou individuelles en fait, c'est tout mélangé. 648 contrôles d'identité, fouilles de bagages et de véhicules. 11 zones de protection et de sécurité installées. Bon, ça fait pas beaucoup. Mais alors il y a pire encore, c'est quand on regarde les suites judiciaires. C'est-à-dire, suite à ça... Normalement, s'ils ont arrêté des criminels pendant dans ces perquisitions, tout ça, ces criminels vont être jugés par la justice. Donc on va voir, les chiffres sont encore plus bas au niveau de la justice, puisque cette fois, les infractions, alors qui étaient poursuivies, hein, c'est-à-dire trafic d'armes, de drogue, séjour irrégulier, tout ça, relevé donc par les flics lors de cet état d'urgence, ont donné lieu à 2 infractions seulement. 2. Et une seule poursuite en justice. Alors on se dit, putain, tout ça pour ça. Toutes ces atteintes aux libertés, pour rien du tout. Donc on connaît l'inutilité de l'état d'urgence. Il y a eu des bilans faits un peu à tous les moments de l'état d'urgence depuis qu'il a été mis en place et poursuivi X fois par Hollande et maintenant par Macron. Alors on sait que le principal objectif c'est pas ça, hein, c'est d'habituer la population à vivre dans un monde où les libertés individuelles sont diminuées au maximum, et ça va arriver donc effectivement dans ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire la première loi sécuritaire et liberticide que va présenter le gouvernement, porté par Gérard Collomb bien sûr sous l'égide d'Emmanuel Macron. Donc voilà, état d'urgence, ça sert à rien si ce n'est à modifier l'état d'esprit des populations et à diminuer les libertés. On va parler un peu d'environnement et de pesticides maintenant, avec 2 infos. La première, c'est un bel exemple de justice qui soutient les pollueurs et le patronat, puisqu'un non-lieu a été prononcé le 4 septembre, donc il y a quelques jours, à l'égard de 2 exploitations viticoles qui avaient épandu des pesticides en bordure d'une école de Villeneuve-de-Blaye en Gironde en 2014. Les élèves avaient été pris de malaise, de nausées, de douleurs aux yeux et de difficultés respiratoires peu après ces épandages de produits toxiques. Une première plainte avait été déposée par une association locale qui s'appelle Sepanzo, et elle avait été classée sans suite par la justice. La Sepanzo avait fait appel, aidée d'autres associations, notamment je crois Générations Futures, et le 17 octobre 2016, 2 domaines viticoles du Bordelais, sous l'appellation Côte de Bourg, étaient mis en examen pour usage inapproprié de produits phytosanitaires. Et voilà, donc le juge a rendu un non-lieu. Bon. Alors, d'après le juge, parce qu'il s'est justifié le juge, pourquoi? Alors, il dit, lui, la météo à Villeneuve-de-Blaye ne permet pas d'avoir la certitude que le vent soufflait trop fort et qui aurait donc envoyé ces pesticides sur l'école. Bizarrement, alors, comme il n'y a pas de station météo, ils n'ont pas la météo locale. Par contre, ils ont la météo du département et il y avait du vent dans tout le département. Mais ça ne lui suffit pas comme preuve, ce gars-là. Alors, de même... Le magistrat a estimé qu'aucun élément objectif ne permettait d'assurer que les pesticides étaient à l'origine de l'intoxication des enfants. C'est bizarre quand même. L'odeur atypique ressentie ce jour-là, il constate qu'elle existait, mais il dit « mais je sais pas d'où ça vient ». C'est beau la justice quand même. Hein, il y a bizarrement tout ce qui est constaté, donc les malaises, tout ça, ça correspond exactement aux produits épandus, en tout cas aux substances actives de ces produits. Le mancozeb, le méphénoxam, la spiroxamine. Voilà, les effets sont connus, ils correspondent à ceux des enfants. Mais non, pour lui, il n'y a pas de preuve directe. Voilà. Bon, bref, la justice préfère ne pas embêter ses patrons agriculteurs pollueurs quitte à sacrifier la santé des enfants. Les parties civiles, donc les différentes assos, ont décidé de faire appel. On verra ce que ça donnera en appel. C'est quand même mal parti. Et deuxième info sur les pesticides. Ça nous vient de l'ONG dont je viens de parler, d'ailleurs Génération Future, qui révèle dans un rapport publié ce matin que plus de la moitié des aliments du quotidien testés par l'association contiennent du glyphosate. Vous savez, le glyphosate, c'est le composant majeur du Roundup, le principal herbicide utilisé dans le monde et surtout produit, et en plus produit par Monsanto, d'où la célébrité du glyphosate. Donc ils ont pris, alors ils sont allés dans des grands magasins, ils ont pris 30 échantillons d'aliments dits du quotidien, ils les ont fait analyser. Alors, ces aliments issus du quotidien, c'est des céréales et des légumineuses. Pourquoi particulièrement des céréales et des légumineuses? Parce que c'est connu que on retrouve souvent des traces de pesticides dans ces éléments-là. Donc ils sont allés au supermarché, ils ont acheté donc des céréales du petit-déj, des pâtes, des biscottes, des lentilles, des pois chiches, des haricots secs. 30 échantillons, 16, donc plus de la moitié, contenaient du glyphosate. Ou les traces d'un lien avec le glyphosate, du métabolite, de son métabolite par exemple. Les aliments les plus touchés sont les céréales du petit-déj, notamment ceux qu'on donne aux enfants, c'est quand même pas terrible. Et les légumineuses qui sont à 58% contaminées et les céréales du petit-déj à 87,5%. Alors, le tout petit truc qui semble moins important et rassurant pour l'industrie, c'est que c'est en dessous des normes. Ah oui, ça c'est l'argument porté par Monsanto et par la FNSEA et par d'autres. C'est pas grave puisque c'est en dessous des normes. Sauf que sur un produit c'est en dessous des normes. Mais si la personne consomme plusieurs de ces produits, voilà, des lentilles à midi, des céréales le matin, ça s'additionne. Et puis ça tient pas en compte ce qui a été absorbé la veille. Ça tient pas en compte les autres, la présence d'autres pesticides avec des associations dont on n'étudie pas, en tout cas les compagnies n'étudient pas ce qui se passe quand on met plusieurs pesticides ensemble et qu'un être humain les absorbe. Donc bref, l'excuse d'être en dessous des seuils n'est pas une excuse, c'est très très inquiétant qu'il y ait la présence de ce glyphosate. Enfin, il faut dire que la France en utilise quand même 8000 tonnes par an, ce qui est plutôt pas mal. Alors l'idée d'en sortir, de sortir le rapport aujourd'hui, alors c'était de montrer d'où venait la contamination au glyphosate. Il y a quelques mois, ils avaient fait tester par 30 personnalités l'urine de ces 30 personnalités. Ils avaient constaté qu'il y avait la présence de plein de pesticides, dont du glyphosate. L'idée c'était de montrer d'où ça venait. Là, ils ont montré que ça vient de l'alimentation. Effectivement, là, je crois que c'est assez clair. Et l'idée c'est de faire pression sur ce qui va se passer au niveau de l'Europe, puisque on va avoir une réunion importante pour prendre une décision d'une nouvelle autorisation ou pas de 10 ans du glyphosate. Puisque le 28 juin 2016, il n'y a pas eu une majorité des États membres de la Commission européenne, donc ils avaient réautorisé pour 18 mois le pesticide en attendant de prendre de l'herbicide, le pesticide ou de l'herbicide, en attendant de prendre une vraie décision. Là, la décision arrive, puisqu'il va falloir la prendre, et l'idée c'est de montrer la réalité de la dangerosité de ce produit. Bien sûr, en face, il y en a qui disent « Mais attendez, c'est pas dangereux, la preuve !» L'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, juge improbable que le glyphosate soit cancérigène. C'est bizarre, ils en mangent pas, mais ils trouvent que c'est pas dangereux, paraît-il. L'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, non plus. Bon, il faut dire que c'est des groupes qui sont pas toujours très fiables dans ce qu'ils annoncent. D'ailleurs, il y a un scientifique qui nous vient de je sais plus quel pays, j'ai perdu son nom, peut-être de l'Autriche, donc c'est un Allemand, un toxicologue allemand, mais qui a travaillé pour une ONG autrichienne, qui s'est étonné que sur les 12 études sur lesquelles devait se baser notamment l'EFSA pour conclure sur la dangerosité, ils en avaient mis 7 de côté, ils en avaient utilisé donc que 5. Et c'était les 7 qui concluaient que c'était dangereux. On rappelle que le CIRC, qui est l'instance onusienne qui s'occupe du cancer, considère que le glyphosate est cancérigène probable, comme ils disent. C'est aussi porté par de nombreux scientifiques. Alors, la FNSEA est allée défendre l'utilisation du glyphosate, hein, c'est bien évidemment, principal syndicat agricole et surtout un des plus gros pollueurs, l'agriculture productiviste, c'est un des plus gros pollueurs en France. Ils défendent le glyphosate, soutenu par la plateforme glyphosate, qui est une sorte de groupe de lobbying créé par les entreprises, qui défendent aussi glyphosate parce que il paraît qu'économiquement, attendez, ça fait gagner plein d'argent, notamment aux agriculteurs qui sont plus productifs, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. D'abord, ils sont peut-être plus productifs, mais ils vendent leurs produits tellement pas cher, parce qu'ils sont tellement pourris, que ça vaut pas le coup. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il vaut mieux produire sans glyphosate et en bio notamment, puisque les marges sont plus importantes, même si on produit moins. Enfin voilà, il y a une belle propagande de la FNSEA et de l'industrie. Là, le but de cette ONG Génération Future, c'est de contrer cette propagande, afin que dans quelques jours la France vote contre, parce qu'on sait ça a été porté par Nicolas Hulot, qui a changé d'avis récemment suite justement à différentes informations, qui a dit qu'il voterait contre au nom de la France, soutenu par le Premier ministre. Donc on verra si Nicolas Hulot va aller jusqu'au bout, parce que c'est le roi aussi des retournements de veste. C'est encore à moi?
Si tu veux.
Ah oui, je vais faire un peu d'énergie. Alors un petit truc drôle, c'est le secrétaire d'État à la transition écologique, qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui est allé à Papété, et il est allé voir donc en Polynésie française ce qui se passait au niveau de la transition énergétique. Et là, il était surpris, mais c'est génial, a-t-il dit. Oh, il ne s'est pas exprimé comme ça, mais il a dit que c'était très bien. 34% de l'énergie consommée en Polynésie est renouvelable. Wow. Alors que en métropole, c'est presque deux fois moins. Enfin, on est à 18,8%. C'est essentiellement, d'ailleurs, en métropole, les cours d'eau hein, qui produisent cette électricité d'origine renouvelable. Donc, il était très content. Il a dit c'est génial et les ambitions sont très fortes hein, d'atteindre 50% en 2020, 75% en 2030. Bien mieux que ce que veut faire la métropole. Et voilà, il est content, c'est tout. Il en tire aucune conclusion. À aucun moment, il dit faudrait que la métropole s'inspire de ça. Rien. Il est allé voir ce qui se passait dans une petite île, il est content de lui, il rentre avec son petit dossier sous le bras. On sent que c'est très utile d'être secrétaire d'État à la transition écologique. Bon, bref, allez, un petit rapport sur le nucléaire. Alors, c'est pas un petit rapport, c'est un énorme rapport, qui est le rapport mondial sur l'industrie nucléaire. Le vrai nom, ça s'appelle le World Nuclear Industry Status Report 2017, donc qui est fait par l'industrie nucléaire, enfin par l'AEA, si ma mémoire est bonne, qui est disponible en PDF un peu partout. Donc on a les sources. Et là, ça fait un bilan un peu de l'état du nucléaire dans le monde. Donc 403 réacteurs dans le monde, ça fait beaucoup hein, quand même. Mais c'est un secteur qui est très fragile d'après le rapport. Donc il nous explique, le pic historique de la production d'électricité par le nucléaire, c'est 1997 avec 17,5% de la production mondiale d'électricité par le nucléaire. Ça reste jamais important hein, quand même le nucléaire dans le monde hein. Aujourd'hui on est à 10,5%, ça fait à peu près 5 ans qu'on est à 10,5%. Dans le peloton de tête, on retrouve, vous le savez, les États-Unis, la France, la Chine. La France en pourcentage, les États-Unis en nombre de centrales. La Chine qui a regagné un cran, après c'est la Russie et la Corée du Sud. Voilà. Sur le bilan au cours de l'année, puisqu'ils font le bilan de l'année, au cours de l'année 2016, donc 10 réacteurs ont été mis en service dans le monde. Alors 5 en Chine, et puis sinon il y en a un en Inde, en Russie, en Corée du Sud, au Pakistan et aux États-Unis. Un aux États-Unis. Donc c'est pas mal. S'il n'y a pas la Chine, finalement, il n'y a que 5 réacteurs qui se mettent en route. C'est la Chine qui double le chiffre. C'est la Chine qui porte aujourd'hui le nucléaire dans le monde. Lors du premier semestre de 2017, 2 réacteurs ont été mis en service. Hein, un en Chine, un au Pakistan. Sur la même période, 4 réacteurs ont été arrêtés en Russie, aux États-Unis, en Corée du Sud et en Suède. Aujourd'hui, il y a 31 pays qui ont des réacteurs nucléaires pour satisfaire leurs besoins, une partie de leurs besoins en électricité. Mais les temps sont durs, on l'a vu, la plus grosse compagnie de fabrication de centrales nucléaires du monde, Westinghouse, qui appartient à Toshiba, a déposé le bilan. Même si elle est reprise, elle a déposé le bilan. Areva fait faillite aussi quelque part, mais puisque l'État a investi 5,3 milliards de dollars sur l'argent des contribuables français, en organisant un plan de sauvegarde pour sauver une entreprise qui est incapable d'être rentable, comme quoi, comme le nucléaire, on est prêt à tout quand même. Donc, grosso modo, le rapport démontre bien que le nucléaire est fragile. Et le rapport montre aussi sur l'état de l'investissement. Et aujourd'hui, plus aucun capitaliste n'investit quasiment dans le nucléaire. Même, c'est pas quasiment, n'investit dans le nucléaire. C'est en baisse totale. D'ailleurs, si on enlève la Chine, il y a très peu d'entreprises privées qui investissent. C'est-à-dire que aujourd'hui, le capitalisme ne croit plus du tout au nucléaire. Ils investissent beaucoup plus. C'est 24 fois plus, en fait, dans le renouvelable. Si même les capitalistes y vont pas, c'est quand même qu'un signe. En plus, le rapport explique que la moitié des réacteurs nucléaires tournent depuis au moins 31 ans, qu'il y a un vieillissement inquiétant des centrales, et que ça concerne un peu tous les pays. Même s'il y a des réactions différentes, les États-Unis ont autorisé globalement à fonctionner jusqu'à 60 ans. La France, il y a une extension 10 ans par 10 ans, centrale par centrale. Voilà. Et puis le rapport fait une sorte de comparaison entre le nucléaire et les renouvelables. Donc la comparaison, voilà, il y a toujours eu l'idée que de toute façon le nucléaire ça peut pas baisser, pas disparaître, c'est trop gros, et le renouvelable c'est trop négligeable. Ça a bien changé depuis quelques années. Et aujourd'hui les renouvelables produisent 4 fois plus que le nucléaire. Et alors leur progression est faramineuse. En 2016, le taux de croissance de la production mondiale de l'énergie solaire est de 30%, de l'éolien de 16% et du nucléaire de 1,4%. Et encore, c'est porté par la Chine, par un seul pays. Voilà. Sur la construction des réacteurs nucléaires, ils font le bilan, il y en a 53 en construction dans le monde. Ils ne prennent pas en compte la dernière décision de Hinkley Point en Angleterre, puisqu'il faut avoir déjà coulé la première dalle, au moins au sol. Donc voilà, mais c'est surtout quand même la Chine qui porte tout ça. Il parle de projets qui ont été arrêtés. Au Brésil, par exemple, un projet de réacteur a été arrêté pour un scandale de corruption. Alors depuis 1980, 90 réacteurs ont commencé à être construits, ils sont jamais arrivés jusqu'au bout pour différentes raisons. C'est drôle quand même. 90 réacteurs ont tenté d'être construits, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Aux États-Unis, c'est sur 4 projets, il y en a 2 qui viennent d'être arrêtés. Et d'ailleurs, dans le ralentissement, pour la première fois, et c'est le cas aux États-Unis, il y a 6 réacteurs qui sont en cours d'arrêt ou qui se sont arrêtés pour des raisons économiques. Ils ont l'autorisation de continuer, mais les entreprises privées qui s'en occupent disent que c'est plus rentable de refaire les remises en état au niveau sécurité. Bah, vaut mieux les arrêter, les démanteler et passer sur d'autres pistes d'énergie. Voilà où on en est aujourd'hui, ce que redit ce rapport. Donc vous pouvez le consulter, il est disponible en anglais. Et vous avez alors plein de tableaux, plein de chiffres, et c'est souvent plus explicite d'ailleurs les tableaux que ma voix. Et puis dernière petite info sur le nucléaire, c'est la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher qui a fait parler d'elle, puisqu'elle est accusée par l'autorité de sûreté nucléaire, ce qu'on est souvent appelé le gendarme du nucléaire, d'une, je cite, « dégradation de niveau de sécurité constatée depuis 2016 et de l'absence d'amélioration notable de la part d'EDF ». Bon, ça fait un petit peu peur. Alors bien sûr, le rapport est tombé hier. Discrètement, alors il est tombé, ils n'ont pas communiqué. Ils l'ont pas donné à la presse. Ils l'ont mis discrètement sur un coin du site de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y en a qui l'ont vu. Du coup, c'est sorti dans certains médias. Les écolos ont relayé. Et EDF a été obligé de s'expliquer en disant « Mais non, c'est tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Alors, faut savoir que l'autorité de sûreté du nucléaire explique sa démarche et sa... Et pour arriver à sa conclusion, ils disent le nombre d'incidents significatifs a beaucoup augmenté, et par rapport à ces incidents, peu de choses ont été mises en place. Et c'est notamment le directeur de la centrale qui est mis en cause, Jean-Marie Boursier. Alors, il a été entendu le 7 septembre dernier au sujet de la centrale. Donc voilà, ça semble mal parti. Ils ont noté, alors je cite, de nombreuses défaillances dans l'identification et l'analyse des conséquences des anomalies. Grosso modo, quand il y a un truc qui marche pas, ils arrivent pas bien à le réparer et pas rapidement, et ils tirent aucune conséquence de ce qui s'est passé. Alors, il y a des syndicalistes EDF qui ont réagi, qui ont expliqué, oui, c'était normal, puisque ils accusent l'emploi massif d'intérimaires peu ou pas ou mal formés. Et un dégraissement lent mais constant du nombre de titulaires, ceux qui ont une culture du nucléaire, une connaissance du nucléaire. Effectivement, quand on n'y connaît rien, c'est quand même particulier d'aller même changer une tuyauterie. C'est pas dans une centrale nucléaire, c'est pas la même chose que d'aller changer une tuyauterie dans une centrale thermique classique. Et les syndicalistes EDF expliquent bien que voilà, il y a une vraie dégradation des connaissances des travailleurs, parce que on embauche des intérimaires qui sont pour certains pas formés du tout sur le nucléaire ou très peu. Voilà. Bon, bref, les habitants du coin et les commerçants et les politiques défendent la centrale nucléaire parce que ça fait gagner plein d'argent en taxes. Notamment, c'est le cas de la députée La République En Marche, macroniste, Perrine Goulet, qui a dit qu'il n'y avait rien à craindre, que la démarche de l'autorité de sûreté nucléaire était normale et que tout allait bien se passer. Bon, faut rappeler quand même que, avant d'être élue, elle était cadre dans la centrale de Belleville, chargée de la sécurité. Bon, le système est pourri, on le sait très bien. Hein, le lien entre les politiques et le nucléaire a toujours été très fort. On a toujours eu une connivence minimum. On ne sait pas s'il y a autre chose. Voilà, en tout cas, une belle centrale. C'est pas la première centrale nucléaire d'EDF qui a droit à passer sous surveillance renforcée de la part de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y en a une qui avait fait ça, c'était Dampierre, je crois, de 2000 à 2002. Bon, voilà, là, c'est parti, à partir de 2017, pour cette centrale de Belleville-sur-Loire. Tu vas nous parler des profiteurs ?
Non, on va s'arrêter là, parce que je pense qu'on va manquer de temps.
Il reste 6 minutes.
Combien ?
6 minutes.
Ah, bah, c'est pas assez, je pense. J'en suis pas sûre. C'était juste pour vous parler de ce qui se passe entre Apple et Samsung, mais on pourra peut-être y revenir sur la guéguerre à la fois technologique et commerciale, et puis à la fois comment nous-mêmes on utilise des produits nouveaux, mais j'y reviendrai la semaine prochaine, du coup. Est-ce que t'avais un agenda, peut-être ?
Ben non.
Non, t'avais pas d'agenda, ben mince alors. Ah, parce que du coup, il reste 5 minutes.
Il te reste 5 minutes, donc t'as 5 minutes pour parler d'un sujet que tu veux.
Je sais pas bien quoi vous dire de plus, non, mais on peut s'arrêter là, tout simplement. On n'est pas obligé de faire l'heure en entier. Alors, Laurent veut absolument que je vous parle de Samsung et
si tu veux pas,
Apple.
Tu veux pas en parler,
oh, si, je veux bien. J'étais toute contente de vous parler de ça. Donc, vous savez qu'il va y avoir les nouveaux téléphones à 1000 euros. Donc, la question, c'est déjà quel est l'intérêt pour nous, consommateurs et consommatrices, d'avoir un tel objet à 1000 euros. Avec 1000 euros, allez donc au magasin à côté de chez vous, voir ce que vous pouvez vous acheter en matériel informatique. Hein, parce que faire des selfies à 1000 euros, c'est quand même un peu beaucoup d'argent. Puisque vous pouvez me dire, oui, mais du coup, il y a une belle technologie de photo. La plupart du temps, on prend des photos de nous-mêmes en train de faire les abrutis, donc ça a quand même pas beaucoup d'intérêt. Vous allez me dire qu'il y a une belle fluidité dans la vidéo, mais en même temps, si c'est pour regarder des séries, des films sur un appareil tout petit, je vois pas non plus l'intérêt de mettre 1000 euros dans ce genre d'appareil. C'est-à-dire que nous, on consomme finalement mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu cette guerre commerciale entre Samsung et Apple. Apple va donc sortir son nouveau joujou, dont je vous donnerai pas le nom, vous avez qu'à vous débrouiller. En tout cas, il va y avoir un écran OLED super classe avec. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, cet écran, il est fait par qui ? Bah, il est fait par Samsung Electronics. La différence avec les appareils précédents, c'est qu'avant, il y avait plusieurs fournisseurs pour Apple, donc il y avait une mise en concurrence de ces fournisseurs. Pour ce nouveau modèle, c'est pas le cas. Il y a que Samsung qui, pour l'instant, va le produire. Et d'après un expert sud-coréen, Apple paye très très cher cet écran, entre 120 et 130 dollars pour chaque appareil. Sur un machin qui vaut 1000 euros, 1000 dollars, hein, parce que ça fait 1000, je sais plus combien d'euros.
1153 euros, je
ouais,
crois.
Ouais, voilà, un truc dans le genre. Ça fait donc une bonne grosse part qui va quand même dans les pages de Samsung, en sachant qu'il y a d'autres éléments à l'intérieur qui vont aussi dans les poches de Samsung, puisque c'est Samsung Electronics qui produit plusieurs autres éléments à l'intérieur des Apple. Donc c'est mignon hein, de venir me dire que Apple, c'est la super technologie, c'est super, mais en tout cas, c'est fait et c'est produit par les autres. Donc c'est très très drôle, parce qu'en fait, à chaque fois qu'Apple vend un produit, Samsung s'en met plein les poches, et en plus de ça, à chaque fois que Apple vend plein de produits, Samsung s'en met plein les poches, et en plus de ça, son action monte, puisque ça fait monter le titre en bourse, puisque les investisseurs sont tout contents de voir que la partie production, c'est-à-dire de la vente des produits purs Samsung, eh ben marche très très bien. Hein, donc ça, c'est intéressant dans cette guerre commerciale de voir que le titre de Samsung bondit à chaque fois que Apple vend un petit peu du produit.
Bon. En même temps, il avait baissé parce qu'ils avaient eu des problèmes de corruption.
Oui, alors, Samsoung, il y a eu
des énormes problèmes.
On a toujours, il faut le savoir. Ce qui n'empêche pas les investisseurs de quand même investir dans Samsung. Maintenant, pour parler un petit peu de technologie très très rapidement, Apple annonce que sorti le Face ID, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone intelligent, votre smartphone. Ce qui pose tout plein de problèmes. D'abord, est-ce que c'est hackable, cette chose ? Il faut savoir que sur le Samsung Galaxy 8, des petits malins s'étaient amusés à déverrouiller ce type d'appareils avec des masques et des photos, et ça marchait plutôt bien.
Bon, c'est moins développé a priori que chez Apple, même si chez Apple ça n'a pas marché.
Apple pour l'instant nous jure, en crachant un petit peu sur le côté, que ça ne pourra pas fonctionner, qu'ils ont fait tous les tests. On ne sait pas bien sur quel test c'est basé, il faudra donc voir que vous, là, qui allez acheter votre machin à plus de 1000 euros.
Mais du coup, on pourra vous piquer votre portable, et en fait, on te met un coup de boule, tu tombes par terre, ouais. Et le mec il prend ton portable et il se met devant et il le déverrouille avec ta face.
Bon, le vrai fond du problème, c'est plutôt par rapport à notre propre sécurité. sécurité par rapport à la police. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, la Constitution te protège avec ton code numérique. Par contre, par rapport à ta face, ça pour l'instant, c'est pas rentré dans la Constitution, donc pour l'instant, c'est pas protégé. La police va pouvoir t'obliger à mettre ta face devant ton téléphone, ta face, hein, ton visage, pour déverrouiller ton téléphone. Mais c'est surtout que les polices du monde entier, qu'elles soient très répressives, et en tout cas désignées comme telles face aux droits de l'homme en Tunisie, en Égypte, ou très répressives tout simplement comme aux États-Unis d'Amérique ou en France, va pouvoir simplement mettre ta face sur le téléphone pour déverrouiller ton téléphone. Et quand t'es militant ou militante, ça va poser quelques soucis de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ton appareil. Donc on redira encore une fois, arrêtons de vouloir nous faciliter la tâche en utilisant des applications pour mettre son empreinte ou son visage, alors qu'en quelques secondes, on va déverrouiller avec un code, et que ça, pour l'instant, c'est beaucoup moins hackable et beaucoup moins facile, et en particulier pour les États répressifs.
Voilà. Eh bien, il nous reste 15 secondes. On se retrouve la semaine prochaine pour le Canyon Info du jeudi, et demain pour le Canyon Info du vendredi, si l'équipe est là, mais normalement, ils sont là. Donc voilà, d'ici quelques secondes, nous retrouvons l'émission Papillon. Il est 20h à la pendule de la plus rebelle de
la
radio.
Petite cuillère.
La petite cuillère, pardon.
Ciao.
La petite cuillère.